Bien, je vais essayer d'être court en cette fin de journée et donc d'aller un peu à l'essentiel en sachant aussi que je ne dirai pas tout puisque je n'ai pas assisté aux trois ateliers en question. Et donc ce que j'ai demandé, ce qui serait pas mal, c'est que par rapport à la conférence de demain matin, je puisse avoir au moins un petit résumé de présentation un peu de ce qui s'est dit. Parce que l'idée, c'est aussi qu'il y ait un aller-retour entre finalement ce que la recherche peut nous apporter et puis ce que les professionnels de terrain, j'ai envie de dire, mettent en œuvre pour inventer et répondre à un certain nombre de problématiques, de questionnements. Alors, je vais revenir un peu rapidement sur ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire un ressenti par rapport à un certain nombre de points. Je crois que la première chose, par rapport à hier, il me semble que on a surtout échangé sur l'évolution du lycée professionnel, un peu sur cette question de en quoi la réforme du lycée professionnel peut conduire à une évolution de la professionnalité enseignante. Hein. Je crois que c'était un peu le point important. Comment la réforme Bac Pro, par exemple, conduit à avoir des effets sur la professionnalité des enseignants. Et l'hypothèse qui apparaissait, c'est au fond, dès lors que l'institution scolaire met en place un dispositif, elle dessine en quelque sorte les objectifs, mais elle laisse aux acteurs la nécessité de construire par eux-mêmes les réponses. C'est-à-dire il faut inventer des réponses, des solutions. Et c'est un peu ce qui apparaissait déjà dans les différents ateliers, par exemple sur l'accompagnement personnalisé, où on dit ce qu'il faudrait, enfin grosso modo, on met en place une mesure ou un dispositif, mais en même temps on dit aux gens, voilà, il faut trouver des réponses. Et donc les variations entre établissements et entre manières de faire interrogent en tout cas sur est-ce que dès lors qu'on laisse l'invention aux acteurs, est-ce que on est toujours dans une éducation nationale comme institution centralisée, est-ce qu'il y a une égalité des chances, etc. Alors j'ai relevé quelques points hein, que je vous livre ici. Je crois que la première chose, c'est que cette réforme, elle apparaît aussi comme potentiellement une réforme qui aura un effet sur d'abord le public, hein, c'est-à-dire l'évolution du public, nouveaux élèves, notamment dans la conférence de ce matin de Vincent sur l'histoire et finalement l'enquête sur le lycée professionnel, c'est au fond, est-ce que l'évolution de cette réforme, est-ce que les réformes n'amènent pas de nouveaux publics, hein, plus jeunes, plus qui choisissent davantage hein, leur orientation, ce qui a été dit. Et du coup, ça veut dire aussi que le public a de nouvelles dispositions. Hein, il est porteur de dispositions peut-être un peu plus scolaires, un peu plus moins réfractaires à l'école. Mais en même temps, on a vu qu'il y a une permanence de... c'est un public nouveau, mais en même temps, c'est un public qui est aussi réticent un peu vis-à-vis de la théorie. Je vais y revenir tout à l'heure. Bon. Alors, cette question n'est pas sans effet sur la professionnalité enseignante. Parce que une des idées qui apparaissait, c'est que les enseignants de lycée professionnel ne se définissent pas seulement comme des enseignants, ils se définissent aussi en partie comme des éducateurs. Et du coup, dès lors que les élèves arrivent et qu'ils sont un peu plus scolaires parce qu'ils n'ont pas redoublé, est-ce que ça n'induit pas de nouvelles réponses de la part des enseignants qui vont se définir davantage par rapport à des élèves qui sont en réussite et un peu moins par rapport à des élèves qui sont, entre guillemets, en échec scolaire? Et du coup, la question d'hétérogénéité se pose autrement. C'est pas l'hétérogénéité au sens où on a des élèves tous en difficulté, mais au sens où il y a différents niveaux qui émergent et qui interrogent justement les enseignants dans la façon de répondre. Deuxième élément, effet aussi, je dirais, la réforme sur le projet des élèves. Et ça, c'est une question qui était un petit peu à l'arrière-plan des différentes interventions. L'entrée par élève n'est pas exactement la même que l'entrée par les enseignants. Et donc, une des questions qui apparaissait, en tout cas une des interrogations, est-ce que les élèves n'ont pas, avec la réforme, un rapport plus positif à la formation qui ne conduit pas forcément à être réticent vis-à-vis, mobilisé sur les savoirs, puisqu'ils cherchent à travers le lycée professionnel à concilier un intérêt pour l'école, la symbolique du baccalauréat professionnel, bachelier, ouvrier, bachelier, mais c'était effectivement une symbolique qui a été dite d'ailleurs dans la conférence ce matin. Et donc, est-ce que le lycée professionnel n'apparaît pas comme une sorte de compromis entre l'école, mais aussi le milieu professionnel, renforcé par l'importance accordée désormais au stage en entreprise? L'autre élément aussi, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, je pense, c'est que il y a effectivement cette relation entre l'histoire de l'enseignement professionnel, qui traverse encore les lycées professionnels aujourd'hui. C'est-à-dire que je rebondais un peu sur le clin d'œil de Vincent ce matin quand il disait finalement les sociologues, sociologie et histoire, hein, c'est pas forcément la même approche, mais évidemment on ne peut pas faire une sociologie du lycée professionnel sans faire de l'histoire du lycée professionnel qui continue à structurer le rapport que le public a avec le lycée professionnel. Alors en particulier, ce qui apparaît, c'est que le lycée professionnel fait l'objet d'intérêts divergents qui engagent différents acteurs. Nous avons eu une présentation du rôle, par exemple, des syndicats. Est-ce que le syndicat, par exemple la CGT, par rapport à l'enseignement professionnel, n'a pas exactement les mêmes attentes que l'Union des industries métallurgiques et des métiers de la mine, donc devenu métier de la métallurgie et de la mécanique, n'ont pas les mêmes attentes. Et pourtant, il y a une convergence vers l'idée que le baccalauréat professionnel, c'est quelque chose d'intéressant, même si ça ne répond pas aux mêmes enjeux. Donc, derrière une même volonté politique, institutionnelle, etc., il y a des attentes différentes. Et donc, ça n'est pas sans effet aussi sur la manière dont les enseignants se positionnent, puisque les enseignants et les acteurs du système éducatif doivent aussi s'affronter à différents acteurs qui ont différents langages. Un exemple tout simple, je dirais, c'est comment on gère l'alternance quand les élèves vont en entreprise, dès lors que la logique de l'entreprise n'est pas exactement la même que la logique de formation à l'école, dès lors aussi que les entreprises ne sont pas un milieu homogène. Elles sont aussi à l'image des lycées professionnels, c'est-à-dire des contextes extrêmement variés, mais aussi elles ont aussi des attentes très différentes. Par exemple, selon les secteurs professionnels, il y a des entreprises qui se reconnaissent plus dans les référentiels de formation ou référentiels de compétences que d'autres entreprises. Donc ceci, je dirais, c'était le premier gros point. Comment une réforme peut aussi avoir des effets sur les publics, sur les enseignants, sur l'identité professionnelle, l'identité du lycée professionnel. Deuxième idée, au fond, le lycée professionnel continue à être traversé par une tension qui est celle de son identité professionnelle et son identité scolaire. Et de ce point de vue, on retrouve cette tension entre les identités, à la fois à travers l'historique, à travers ce qui a été présenté tout à l'heure, par exemple sur le CCF, hein, qui a fait débat aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une logique de formation par rapport à des savoir-faire, ou est-ce qu'on est dans une logique de formation par rapport à des dispositions vis-à-vis des savoirs, dispositions en termes de connaissances, et donc cette tension, on la retrouve chez les élèves, parce que les élèves opposent beaucoup l'enseignement général et l'enseignement technologique et professionnel, mais nous pouvons aussi la retrouver, même si elle est un peu plus atténuée selon les filières, chez les enseignants, chez les différents acteurs. On forme les élèves à des compétences, mais aussi à des savoirs. Et donc cette tension, elle est celle notamment qui traverse le lycée professionnel, mais ça date pas d'aujourd'hui. Cette tension aussi prend une autre forme avec l'élévation des niveaux de formation et de qualification. D'un côté, la création du bac professionnel a redoré l'image du lycée professionnel, c'est évident. Et d'ailleurs, ce qui a permis de valoriser le lycée professionnel, ça a été de dire que le bac professionnel doit devenir aussi un moyen d'ouverture sur l'enseignement supérieur, hein, puisqu'il y a effectivement un décret qui date de 2007 et qui dit grosso modo que les élèves qui ont un bac avec mention bien ou très bien peuvent envisager l'enseignement supérieur. Ça n'est pas rien, parce qu'on pourrait dire tous les élèves n'ont pas le bac avec mention, mais c'est déjà une logique un peu nouvelle, c'est-à-dire valoriser la voie professionnelle, c'est permettre aux élèves de poursuivre des études. Du coup, ça a un effet aussi sur les projets des élèves, c'est-à-dire on peut faire l'hypothèse que cette évolution de l'institution symbolique du baccalauréat en 3 ans peut créer aussi des projets. On peut raisonner de deux manières, soit la manière la plus répandue qui consiste à dire les élèves vont au lycée professionnel à partir du moment où ils ont un projet en amont, mais ils peuvent aussi construire des projets pendant la formation, ce que l'enquête le montre notamment qui a été évoqué par Vincent tout à l'heure, et puis ce que l'on voit aussi lorsqu'on fait un suivi sur le décor, hein, d'un petit peu sur le long terme. Tous les élèves n'ont pas choisi leur orientation, mais tous les élèves ne sont pas en échec en lycée professionnel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue dans la relation. Et cette relation, elle a été décrite tout à l'heure en termes de proximité et en termes de distance. C'est-à-dire comment les enseignants créent une certaine proximité avec leur public. Est-ce que c'est une proximité qui va jusqu'à annuler la hiérarchie ou les rôles? On voit très vite que ça n'est pas le cas, hein, mais ça veut dire aussi qu'il y a différentes manières d'enseigner
et donc différentes manières aussi de se positionner par rapport à ces injonctions, mais qui ne sont pas, on voit très, de toute façon, que ce ne sont pas les injonctions qui font le métier, c'est la manière dont on interprète ce qui est dit qui conduit effectivement à des ajustements, ce qu'on pourra appeler en sociologie des régulations. Alors cette élévation des niveaux de qualification, le bac professionnel, mais ça veut dire aussi élévation des niveaux de recrutement des enseignants. Et du coup, ce qui peut poser question, et c'est une question que je livre aujourd'hui, sur laquelle je reviendrai demain, c'est qu'en fait, cette élévation peut conduire aussi à une certaine distance, et je vais prendre une distance un peu plus sociologique, hein, c'est-à-dire entre les élèves et les enseignants. Et de ce point de vue, je fais l'hypothèse, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, je fais l'hypothèse qu'effectivement les néo-enseignants, ils n'ont pas ni le même parcours scolaire que les anciens, ni le même rapport à la formation que les anciens. Est-ce que pour autant cette distance, est-ce que c'est une distance sociale? Est-ce que c'est une distance culturelle? Moi, je proposerais, finalement, ce que j'ai proposé, il me semble que cette distance, paradoxalement, crée une proximité entre les enseignants et leurs élèves, qui est une proximité de conditions, alors qu'avant, c'était une proximité plus culturelle, puisque beaucoup d'entre eux se recrutaient plutôt dans le milieu ouvrier ou employé. Alors, de ce point de vue, troisième élément que j'ai relevé, pour pas être trop long, c'est la question des savoirs. Et on est rentré hier par le décrochage, on a abordé finalement le lycée professionnel par le décrochage, ensuite par la réforme, et donc on arrive sur les savoirs, la question des savoirs et des compétences. Alors sur cette question, savoir, compétences, c'est aussi la question des modes d'évaluation. Et j'ai relevé ici quelques points que je vous livre. D'abord, chose que j'ai dite tout à l'heure, c'est que l'institution définit des orientations. Finalement, il faut évaluer les élèves. Et c'est aux acteurs d'inventer. Alors, comment on invente? On peut imaginer qu'il y a le discours institutionnel. L'exemple le plus typique, c'est que quand vous prenez le bulletin officiel de 97 qui définit les missions des enseignants, il dit tout et en même temps, il ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, grosso modo, la responsabilité des enseignants dans la classe, dans l'établissement scolaire et puis dans l'éducation nationale. Mais concrètement, comment on fait? Donc, dès lors qu'on parle de concrètement, ça veut dire l'individuel et le collectif qui est constamment en tension. Et donc, pour les interventions, notamment la conférence de l'après-midi, on voit très vite aussi comment les néo-enseignants, il y a deux types de régulation. Il y a une régulation qui se fait entre les enseignants, quelles que soient les générations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, nous avons des injonctions, comment on fait concrètement pour évaluer les élèves, sur quel contenu, sur quelles compétences. Et il y a une deuxième dynamique, c'est celle qui concerne les générations. Ou dans ce cas, le regard, faut-il privilégier la qualification, c'est le modèle du recrutement en France, ou faut-il privilégier les compétences, c'est la référence que les enseignants d'EPS, la référence notamment à l'expérience. Comment l'expérience devient aussi un élément structurant dans la relation aux élèves et dans la relation notamment entre collègues. Et donc, première chose, cette question de l'institution. La deuxième, c'est la difficulté, j'ai envie de dire, à s'accorder sur les manières de procéder. On voit très bien, et ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant, que les désaccords qu'on peut avoir sur comment évaluer, sur que faire des dispositifs, alors je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, j'ai envie de dire, mais c'est un peu le débat qu'il y a eu ce matin sur l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire comment l'accompagnement personnalisé apparaît aussi comme une injonction dont les individus, les acteurs à différents niveaux doivent se saisir, parce que pour le coup, ça pose une autre question. L'accompagnement personnalisé, pourquoi faire ? Est-ce qu'il y a un accompagnement personnalisé qui soit indépendant des savoirs à enseigner? Est-ce qu'il est indépendant des contenus de formation? Et on voit là que ça veut dire que tout est à créer finalement. Et pour faire un parallèle, ça a été dit ce matin, au lycée dans les lycées d'enseignement général, on m'a dit, bon, les EGT, je peux vous dire qu'il y a des établissements, ils sont nombreux, où ils ont inscrit aussi cet accompagnement personnalisé. Et en fait, chacun y fait un petit peu ce qu'il veut. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais ça veut dire, quand je dis chacun, ça veut dire que ça se joue aussi à l'échelle de l'établissement, à l'échelle d'un certain nombre de choix. Et ça n'est pas, je ne vous apprends rien, puisque j'ai par exemple des collègues, même à une réunion parents professeurs, qui me disaient, bah, tu sais, on a des heures. Hein, et bien évidemment, il faut faire ses heures. Donc du coup, on met des heures. Et donc, c'est pas la même chose que de dire on met des heures pour pouvoir construire des contenus. Et donc, ceci amène l'interrogation suivante. Un dispositif ne peut fonctionner qu'à partir du moment où tous les acteurs lui donnent un sens. Quand il a un sens, quand il n'a pas de sens, ou quand il apparaît comme étant une injonction non appropriée, ça peut expliquer aussi ces désaccords, ces tensions, y compris d'ailleurs entre différents acteurs, par exemple les responsables institutionnels. Donc cette question à s'accorder est aussi un problème qui peut-être se renforce de cette indétermination concernant les effets de l'autonomie des établissements. Parce que l'autonomie, c'est très bien, on sait, nous on le connaît par exemple à l'université, puisqu'on est dans la loi d'autonomie depuis 2007, hein, notamment la loi LRU, mais on sait très bien que l'autonomie n'est pas indépendante, finalement, d'un certain nombre d'enjeux économiques, enjeux politiques. Et donc, l'autonomie, c'est aussi inventer des mécanismes de régulation. Et donc, je dois dire de ce point de vue que le débat qui a eu lieu sur le CCF indique aussi que cette question, elle n'est pas simple parce que on sent qu'il y a effectivement différents enjeux. Est-ce que ça relève d'une économie d'échelle ou est-ce que aussi ça n'est pas une manière de dire on va valoriser cette fois-ci les savoir-faire qui peuvent aussi potentiellement avoir des effets positifs sur les élèves. Hein. Et donc, l'important, c'est pas le dispositif, c'est aussi ce que nous en faisons. Et troisième élément, donc, toujours sur cette question des savoirs et de l'évaluation, c'est que on pourrait dire que à travers les contenus, les manières d'enseigner préfigurent aussi les manières d'évaluer. Hein. C'est-à-dire que on voit un peu cette relation entre comment je suis dans la proximité, comment je suis plus ou moins dans l'explicitation, et donc cette relation, la manière d'enseigner préfigure aussi cette question de l'évaluation. Je n'enseigne pas indépendamment de la conception que je me fais de ce que les élèves doivent maîtriser comme compétence et donc de ce que je suis censé évaluer à l'arrivée. Et de ce point de vue, là aussi, une question qui a été soulevée tout à l'heure, par rapport à, en tout cas, d'une des interventions de la restitution des ateliers ce matin, c'est au fond, est-ce qu'on leurre pas, par exemple, les élèves en disant, voilà, on va élever le niveau, et puis après, on s'aperçoit que peut-être qu'ils n'ont pas les niveaux de s'adapter. Alors, je prends un exemple, le débat qui a eu lieu sur la liaison entre le bac pro et l'enseignement supérieur. Hein. Est-ce que les élèves, quand ils sont situés à un bac pro, est-ce qu'ils peuvent s'adapter aux sections BTS, DUT? Je dois dire, je peux parler d'une expérience plus personnelle, pour faire un peu le lien. Nous avons à l'IUT de Lille, enfin de Tourcoing, nous avons fait le choix depuis 2 ans de dire il nous faut aussi donner leur chance aux bacheliers professionnels. Donc c'est un choix qui se fait en liaison avec les lycées professionnels pour dire effectivement ce qui attend les élèves quand ils arrivent aux étudiants. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sitôt que l'institution est prête à jouer le jeu et donc à savoir quelles sont les difficultés à mettre en place des moyens, par exemple on a des modules de remise à niveau, eh bien on s'aperçoit à l'arrivée, et sans être indulgent, que nos élèves qui sont issus du bac professionnel, alors évidemment, on peut dire qu'ils sont sursélectionnés par rapport à d'autres élèves, qu'ils réussissent parce que l'institution fait le pari qu'à partir du moment où les modes d'évaluation plus continus qu'à l'université, le suivi des étudiants plus proches qu'à l'université, eh bien, est à même de faire réussir les étudiants, qui d'ailleurs, pour ce nombre d'entre eux, vont vers la licence professionnelle par la suite. Donc on peut dire aussi que la question de l'évaluation, c'est aussi la question de la continuité des modes d'évaluation. Pourquoi faire? Comment on évalue? Et comment on amène aussi les élèves à s'auto-évaluer? Vous savez tous que une des difficultés que peuvent avoir les élèves, c'est la difficulté à s'auto-évaluer, et j'essaierai de le dire demain, c'est qu'en fait, la question de l'évaluation est fondamentale quand on la pose aussi du point de vue de l'élève, et pas seulement du point de vue de l'enseignant. Par exemple, pour les élèves lycées professionnels, réussir, c'est aussi savoir faire, savoir s'auto-évaluer. Quand je fais un montage d'électricité, s'il marche, je vois qu'il marche. C'est pas la même chose que lorsque je fais une dissertation, où je dois faire confiance au prof parce que c'est lui qui sait. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour résumer un peu, en allant sans doute un peu vite sur certains points. Donc ce que je vous proposerai, simplement parce qu'il y a des choses qui ont été dites dans les différents ateliers, je n'ai pas entendu, mais j'ai eu des échos, c'est effectivement que demain, je reprendrai un peu, peut-être en partant un peu de ce qui a été dit, un petit résumé, pour relancer, revenir un peu sur la sociologie de l'enseignement professionnel et sur un peu comment l'entrée élève nous enseigne aussi sur la question de la professionnalité des enseignants. Voilà ce que je voulais dire en espérant que on a tenu quand même dans le temps. J'ai essayé de tenir un peu dans les temps, quoi.